Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à la 7e édition de notre cycle Les Dor Vador, la musique hébraïque de génération en génération. Après les 3 dernières émissions entièrement consacrées à la musique hébraïque de la fin de la Renaissance, où nous avons pu entendre une belle sélection d'œuvres de Salomon et Rossi, dit l'hébreu, nous continuons à avancer dans le temps et dans l'histoire de la musique hébraïque pour vous présenter une œuvre extraordinairement belle et intéressante qui est un exemple peut-être unique qui a survécu de la musique baroque hébraïque en France. Il s'agira donc aujourd'hui d'une cantate datée autour de l'an 1680 et intitulée Canticum Hebraicum. Elle est signée Louis Saladin, de son vrai nom Ludovico Saladino. Et selon les informations fournies par Wikipédia, entre autres, il s'agirait d'un musicien juif provençal du temps de Louis XIV, venu de l'Italie vraisemblablement. Et pour mieux illustrer cette œuvre de la période particulière dans laquelle elle voit le jour, nous avons la chance d'avoir avec nous comme invité une grande spécialiste strasbourgeoise de la musique baroque. Bonjour Aline.
Bonjour.
Aline Silbereich est claveciniste, pédagogue, renommée et spécialiste de la musique baroque, professeure au Conservatoire de Strasbourg, mais aussi à Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique. J'ai invité Aline, qui en plus d'avoir été professeure des clavecins des deux de mes enfants, dont Léo, toujours présente avec nous pour nos programmes. Bonjour Léo.
Bonjour.
Léo, donc, était aussi élève, comme Sébastien, hein, mon deuxième enfant, d'Aline. Et donc Aline a eu la chance incroyable de participer au premier enregistrement mondial de l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui et à ma connaissance probablement les seuls qui restent disponibles. Peux-tu nous raconter un peu Aline l'histoire de cette œuvre que tu connais bien ?
En fait, je peux vous raconter le contexte. En fait, j'étais étudiante au New England Conservatory dans la classe de John Gibbons, claveciniste émérite.
Ça, c'est dans la ville de
Boston.
Boston.
À Boston. Et il faisait partie de la Boston Camerata, qui était déjà à l'époque un des premiers ensembles sur le sol américain à faire de la musique ancienne de manière extrêmement historique et informée.
Et sur instrument d'époque.
Et sur instrument d'époque, bien sûr, et dirigé par Joel Cohen. Et Joel Cohen, donc c'était John Gibbons, le claveciniste attitré de la Boston Camerata. Et Joel Cohen a eu ce projet d'enregistrement avec d'autres pièces d'ailleurs de la même époque. Et donc il a demandé à John Gibbons de participer. Et comme je terminais mes études, je terminais un master de clavecin là-bas et qu'il commençait déjà à me propulser sur la scène, il lui a dit « Well, for Jewish music, you need a Jewish harpsichordist ». Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire finalement un de mes tout premiers, j'en avais fait avant, mais un de mes tout premiers enregistrements discographiques.
Eh bien, c'est incroyable de retrouver à Strasbourg quelqu'un qui était à Boston il y a un certain nombre d'années, parce que l'enregistrement date de...
De janvier 1978.
1978.
Donc janvier à Boston, ça veut dire beaucoup de neige, très froid, des circonstances toujours climatiques assez difficiles, mais en même temps, c'était des hivers radieux.
Eh bien, croyez-moi, chers auditeurs, que je suis très heureux de pouvoir vous présenter, grâce à la présence d'Aline, un témoignage direct de la création de cette œuvre au XXe siècle, parce que vraisemblablement, elle n'a pas été jouée depuis les temps où il était écrite chez Louis XIV. Et pour mieux illustrer donc l'ambiance dans laquelle a dû se passer la fête musicale accompagnant l'heureux événement, la naissance d'un enfant juif qui a été la raison de la commande de cette pièce, je vous propose d'écouter, pour commencer, le prélude instrumental qui sert d'ouverture à l'œuvre musicale. Il s'enchaîne avec un duo à deux voix d'hommes aigus, c'est-à-dire un ténor et un haute contre, on va expliquer un peu ce que c'est, et puis des ritournelles instrumentales qui alternent avec un air de basse, et le tout culmine avec un magnifique chœur à quatre voix repris à la fin de la première partie, avec l'insertion des danses à la mode de l'époque, comme la bourrée et le rigodon. Thank you. Et puis, c'est magnifique. Vraiment, moi, je m'en lasse pas. Ça fait des années que je connais cette musique et chaque fois que je l'écoute, elle sonne toute neuve, comme si elle venait d'être écrite. Qu'est-ce que vous pensez, mes invités ?
Alors, Léo, avec des oreilles toutes neuves, qu'en penses-tu ?
Vous allez sûrement me dire que, bon, c'est la même époque, mais ça me fait beaucoup penser aux cantates de Bach.
Mais avec
une
grande surprise.
Ouais, avec des parents hébreux, ça me fait, c'est assez bizarre.
Et c'est ça qui peut surprendre absolument tout le monde.
On n'est pas habitué.
Absolument. C'est-à-dire que c'est une musique qui, quelles que soient les références que l'on a, on sent bien qu'il y a un décalage entre l'hébreu et la musique que l'on entend.
Juste pour préciser, Bach est né 5 ans après l'écriture de cette partition.
Voilà, donc en fait, c'est une musique bien antérieure. Ouais. Et même si, effectivement, c'est une musique qui met en œuvre des solistes, des instruments baroques et un chœur, en fait, le style et l'écriture est tout à fait différent. Mais il est vrai que chez Bach, on retrouve aussi ce genre de composition dans un style, évidemment, très, très différent.
Et très français.
Et, oui, ici, très franco-italien, je dirais, en
D'accord.
fait. Hein, on sent vraiment que ce compositeur, qui est en Avignon, donc domaine papal, qui est d'origine italienne, qui a forcément beaucoup de contacts avec la musique italienne, puisque les papes s'entourent de musiciens italiens aussi en Avignon, mais qui, bien sûr, dans, vu l'environnement qui est quand même français, a beaucoup de contacts avec la musique française. Donc moi, quand j'entends cette musique, je pense à différents... Selon les moments, différentes influences. Alors, par exemple, on peut penser à Carissimi, un compositeur italien qui a écrit des histoires sacrées sur des sujets bibliques comme Jephté ou Balthazar. Et puis, quand on entend les danses, évidemment, on pense aussi dans la manière dont les chœurs s'alternent avec les danses, la composition très, très fluide. Mais en revanche, quand on entend les danses, évidemment, il s'agit de style purement français. Et on est à l'époque de Louis XIV, le roi qui a mis la danse le plus à l'honneur pendant toute cette époque. Et donc, tous ces rigodons, ces gavottes, etc., ce sont vraiment les danses typiques de cette époque. Donc, on a un croisement d'influences. Mais je pense à un autre exemple de l'époque, qui est une compositrice, d'ailleurs, Antonia Bembo, qui s'est réfugiée en France, à Paris exactement, en fuyant des problèmes familiaux terribles, et qui s'est mise sous la protection de Louis XIV. C'était une pure italienne, et elle a écrit énormément d'œuvres à la gloire de Louis XIV dans un style purement français, et tout en écrivant des cantates dans un style purement italien.
Donc un peu comme Lully.
Oui, sauf que Lully n'a écrit que dans un style purement français, alors que Bembo a utilisé vraiment un mélange de styles assez intéressant. Mais là, on peut, en écoutant cette œuvre, c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui n'est pas narrative, qui est une œuvre laudative, qui est un petit peu comme les sérénades que les princes italiens écrivaient à la gloire d'un invité, à la gloire d'un prince. C'est une œuvre de ce qu'on appelle une œuvre de circonstance. Et ce que je trouve vraiment admirable, c'est que pour une œuvre de circonstance, c'est une œuvre de très, très belle facture.
Ah oui, des très belles qualités. Tu imagines, Léo, les gens, les invités qui sont là en train de voir les bébés qui pleurent peut-être, et on va lui couper, hein, comme on fait souvent,
ouais,
avec un peu de vin pour qu'il n'ait pas la douleur. Et puis les invités écoutent cette musique et on peut très bien imaginer que les invités dansaient aussi,
ouais,
sur ces airs-là pendant que les chœurs chantaient et tout et tout. Et bien, c'est extraordinaire. Mm. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'il est temps d'écouter la deuxième partie, hein, qui a aussi 7 minutes comme la première. Je pense que ce n'est pas du hasard. Hein. Les chiffres 7, vous savez, pour le judaïsme, a une connotation tout à fait spéciale. Et si le compositeur a choisi de faire durer chacune de deux parties 7 minutes, c'est peut-être pas du hasard. On va écouter.
Thank you.
Eh bien, nous avons entendu dans cette deuxième partie, comme pour la première, un prélude initial qui sert d'introduction, un air de haute contre, à cette voix particulièrement aiguë, typique de la musique baroque française, et puis les autres voix basses et ténors qui se sont joints à la première voix, et puis les chœurs finales, et comme dans toutes les œuvres de l'époque, les amen finales qu'on entend chez Handel, chez Bach et tout. Mais vous avez entendu également trois mots de conclusion, Kenya se Adonai, et que Dieu le fasse ainsi.
Et tout ça précédé par une gavotte, donc une danse typiquement française à la fin du XVIIe siècle, qu'on a entendu chanter en français en général, des fois en allemand, parfois en italien, et là c'est en hébreu, et une fois de plus c'est une grande surprise.
Et puis l'alternance de la gavotte instrumentale à la gavotte chantée.
Qui était, elle, typique de l'époque, en fait.
Oui, et d'après ce que tu disais, Aline, c'était pas assez rapide, n'est-ce pas?
Oui, alors ça, c'est une question juste d'interprétation. Effectivement, en fait, on aurait imaginé la gavotte instrumentale au même tempo que la gavotte vocale. Mais ça, c'est un détail d'interprétation.
Donc, on va laisser les interprètes avec les beaux souvenirs de ces belles musiques swingantes, hein, n'est-ce pas, Léo? Tu as vu comment ça rebondit? Malheureusement, quand on écoute, ça passe trop vite et on s'attarde sur des commentaires. Il faut qu'on dise à nos auditeurs à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Aline.
Merci
Léo de ton intervention. Nous arrivons ainsi à la fin de notre 7e émission. La semaine prochaine, nous aborderons des musiques hébraïques composées pendant le 18e siècle, qui incluent la fin de la période baroque et le début du classicisme. Encore une fois, merci Léo, merci Aline. Et puis, je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine.